PAN. C'est pour Phénomène Artistique Non Identifié. C'est une association qui diffuse des écritures poétiques, théoriques et plastiques et questionne les formes artistiques contemporaines. Alors déjà, est-ce qu'on peut un peu présenter PAN, cette association, et aussi parler de où se situe la création d'un groupe de recherche dans l'évolution de PAN et qu'est-ce qui vous amène jusqu'à ce processus de travail, Jean?
Alors, pour répondre, PAN, c'est effectivement une association qui s'est créée en 2011, qui a pour vocation au départ de créer des rencontres autour des écritures poétiques contemporaines, sous toutes leurs formes en fait. Donc écriture poétique contemporaine, ça peut être des lectures ou des performances presque classiques, on va dire. Ça peut être aussi des expositions, ça peut être des ateliers, ça peut être toutes sortes de choses qui s'improvisent parfois. Ce qu'on a fait le plus souvent, le plus couramment, c'est d'organiser en quelque sorte des festivals de poésie au moment du printemps des poètes, où on invite des auteurs qui sont des poètes, mais qui sont aussi parfois des théoriciens, ou bien des plasticiens ou des plasticiennes. Et puis au bout de peut-être 10 ans d'activité, on a exploré déjà plein de formes de rencontres possibles avec les auteurs d'un côté et puis avec les publics de l'autre. Et surtout, il y a des gens en fait qu'on a rencontrés parce qu'on les avait invités au départ. Et puis on s'est rendu compte qu'on a vraiment des choses à faire ensemble. Mmh. Et donc il y a des compagnonnages qui se sont créés au fil des années. Et du coup, l'an dernier, on a créé un groupe de recherche qui s'appelle le groupe de recherche sur les technologies intellectuelles ouvert. Donc le plus important, c'est le ouvert. Le petit nom, c'est Tigrou. Donc, technologie intellectuelle, groupe de recherche ouvert, voilà, ça fait Tigrou.
Ça fait Tigrou.
Voilà. Et donc, dans ce groupe, il y a Pomme qui est là, il y a moi, il y a Christophe, neuf personnes au départ qui sont des gens avec qui on a travaillé dans PAN. Mais il y a aussi tous les gens qui viennent participer aux rencontres que ce groupe de recherche ouvert organise. C'est très informel, en fait.
C'est informel.
Ouais. Mais pour continuer sur la question de ouvert, j'étais invitée par Jean, puisqu'on a travaillé notamment à travers l'atelier de géographie populaire du plateau de Mille Vaches.
J'allais justement te demander comment tu as rencontré, comment vous êtes croisés, et comment tu en arrives dans,
ouais,
dans ce...
Et ben voilà, donc ça c'était en, je crois, 2013, PAN nous a contactés pour pouvoir montrer le travail qui avait été fait de cartographie et aussi qui avait invité Till Roskens à l'époque. Et en fait, c'est une collaboration qui a duré puisqu'on est resté en contact comme d'autres personnes qui font partie de Tigrou. Et en fait, ce qui moi me semble aussi intéressant, puisqu'il y a à la fois effectivement des plasticiens, des théoriciens, mais aussi des auteurs. Donc il y a une sorte de... Mais il y a une sensibilité commune, en tout cas, à s'interroger aussi sur nos propres modalités de travail et qu'est-ce qu'on met en œuvre quand on fait ce qu'on fait. Et du coup, d'être plutôt dans des recherches aussi de questionnement par rapport aux dispositifs qu'on propose. Je pense que ça, c'est aussi la raison pour laquelle c'est intéressant et que ce groupe est ouvert. C'est-à-dire qu'il est ouvert à toute personne qui a envie de s'interroger aussi sur qu'est-ce qu'on produit finalement, ne serait-ce qu'au quotidien, dans nos actions. Et donc, c'est ce que propose PAN à travers Tigrou, et notamment dans le programme actuel autour de négocier. C'est vraiment d'interroger au quotidien quelles sont... nos manières d'opérer en fait les uns les autres, que ce soit dans un quotidien très très simple ou à travers des institutions ou à travers des dispositifs artistiques ou d'écriture.
Pourquoi commencer par négocier? Ça vient d'où?
Il y a pas de raison vraiment particulière, donc là il y a pas de plan prédéfini. Il faut accepter que c'est très empirique et que ça résulte aussi des envies en fait des uns et des autres. Donc en fait on a fait une petite liste, on s'est dit ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, et puis en fait ça a été autre chose et c'est tombé sur négocier parce qu'on quelqu'un a proposé ça et on s'est dit c'est
une bonne partie,
c'est intéressant de commencer par là, entre autres parce que c'est tellement universel, universel. à la fois politiquement un enjeu quand même assez fondamental et en même temps une pratique tellement, tellement quotidienne pour nous tous, quoi, qui peut se décliner dans de toutes sortes de manières et dans des domaines extrêmement différents.
Et justement, on va un peu parler de ce travail entamé, de ce qui se passe en ce moment et bah, de ce qui va découler de tout ça. Et pour commencer autour de négocier, on peut écouter un extrait. On va écouter un extrait justement d'une des. Il y a eu des rencontres déjà. Il y en a eu trois. Et il y a Julien qui, lui, est apiculteur et qui a commencé à parler de négociations. On l'écoute et puis après on parle un peu plus de négocier.
Du coup, je vais pas parler d'art, je vais parler d'amour et de domination, mais dans l'apiculture. Ça fait 3 ans que je suis comme ouvrier agricole, j'apprends à être apiculteur, mais c'était avec la personne que j'aimais, et du coup, c'était super d'apprendre, de partager un amour pour un métier comme ça. Et j'ai décidé d'arrêter un métier que je faisais avant pour faire celui-là pendant le confinement. Un jour, une personne végane m'a dit, j'avais mis du miel dans un gâteau, et quelqu'un m'avait demandé qu'est-ce qu'il y avait dans le gâteau, donc il n'y avait pas d'œuf ou quoi, mais il y avait quand même du miel. La personne m'a dit, je ne mangerai pas ce gâteau parce qu'il y a du miel dedans. Donc a priori, je rappelle quand même que ça pourrait être végane, enfin une petite définition, mais c'est... c'est non négociable, c'est le fait de ne pas manger de produits issus d'élevage ou de choses qui entraîneraient la souffrance animale. Et j'étais étonné parce que j'avais oublié que le miel n'était pas vegan en soi. Et j'ai dit à cette personne, je pense que mon miel est vegan. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi. Donc du coup, je vais pas essayer de vous expliquer pourquoi mon miel est vegan parce que j'ai aucune... Je suis dans aucun syndicat agricole où j'ai rien à défendre. Et disons que je ne vis pas de ça pour l'instant non plus. Du coup, c'est ce dont je parlais avec Anne-Fleur tout à l'heure. Je vais juste vous lire un peu, vous parler de toutes les étapes de négociation qui découlent des choix que j'ai faits dans ma pratique apicole. Et qui sont dans la poursuite de ce que mon copain a élaboré pendant 15 ans. Parce qu'il a une technique assez unique de travail. Donc le premier moment de négociation, c'est vient du fait qu'on ne veut travailler qu'avec des abeilles locales. Donc l'abeille noire, l'abeille endémique, l'abeille d'Europe, qui est en train de disparaître et qui n'existe qu'à l'état sauvage. Donc là où il y a la négociation, c'est que du coup on ne peut pas l'acheter sur internet, par exemple. Ce que font les autres apiculteurs, c'est qu'ils achètent, dès qu'ils perdent une abeille, ils la rachètent. Après ils les multiplient, mais quand on s'installe, on peut acheter des abeilles. Il y a des espèces qui sont hybrides. Donc du coup la première étape, c'est trouver des endroits où cette abeille noire est présente. Donc pour notre part, c'est les résidences secondaires, donc dans les cheminées, dans les volets, ou dans les arbres. Donc a priori, des endroits qu'elles définissent comme étant l'endroit idéal pour s'installer. Il y a deux négoces compromis à cet endroit-là, c'est qu'il faut qu'on les déloge, parce qu'on a besoin d'elles pour vivre, et en même temps, elles ont besoin de nous, parce que là où elles sont, souvent elles se font déloger par d'autres, mais déloger avec la mort qui s'ensuit. Voilà. Du coup, il y a un truc à trois qui se passe, c'est l'apiculture, enfin non, les personnes qui ont... les abeilles, la communauté des abeilles, et les résidents secondaires, les propriétaires qui viennent 10 jours par an sur le plateau, et nous lâchent. Et du coup, il y a un deal à trois qui se passe comme ça. Donc le deal, c'est on prend les seins, on vous donne un pot de miel, ou on vous donne du miel, ou des fois, ils nous donnent de l'argent, mais on ne comprend pas forcément pourquoi. Ou des fois, c'est on ne peut pas le prendre maintenant, mais souvent, quand les personnes en résidence secondaire arrivent, elles coupent, elles défrichent tout, elles coupent les... donc souvent les lierres, et souvent, c'est elles coupent les floraisons. Mmh. Voilà, et du coup, nous, le deal aussi, c'est de dire, ben, on vous les retire, mais attendez avant de couper tel arbuste, en fait, parce qu'il y a des saisons pour nous, il y a des saisons coupées, mais d'autres, il n'y a pas de saison, on coupe toute l'année. Et du coup, il y a plein de choses qui se passent déjà dans cette première étape, qui, moi, il la, correspond à la première étape qui va faire que je vais pouvoir m'installer seul, en tout cas, pas avec mon ami. Ensuite, il y a, là, c'est un peu plus pour répondre à la personne vegan, qui du coup a associé l'apiculture à le fait de faire souffrir une communauté d'abeilles. On travaille avec des abeilles qui... on les laisse vivre à l'état comme à l'état sauvage. Mais du coup, on dit qu'on travaille de manière semi-sauvage, dans le sens où elles sont quand même dans des ruches et on les attrape. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec des ruches qui restent dans des trous, parce qu'il y a, pas, il y a trop de résineux ici. Enfin, il faut dealer avec le fait qu'il n'y a pas assez de hêtres ou d'arbres creux pour qu'il y ait des abeilles pour pouvoir travailler directement au trou. Et après, il y a le fait qu'on ne les traite pas contre les maladies. Et du coup, dans ce sens-là, mais vous me dites si je me perds un peu, mais...
Non,
c'est que... Donc c'est un autre moment de négociation, c'est que on fait ce qu'on appelle la sélection naturelle, c'est qu'on les laisse se laisser le temps d'apprendre à se débarrasser elles-mêmes d'une maladie qui est récente et qui vient d'Asie, mais en Asie, les abeilles sont habituées à ça. C'est le varroa, c'est une sorte de parasite sur le dos. Pour travailler avec l'abeille sauvage et la laisser sauvage, enfin, quelque part, on veut l'habituer à quelque chose qui fait qu'elles n'ont pas besoin de nous, c'est-à-dire le traitement. Mmh. Du coup, on ne les traite pas, parce qu'on espère qu'elles arriveront elles-mêmes aussi sur des centaines d'années à se débarrasser de cette... Mmh. Et en fait, en Asie, elles négocient avec le varroa, parce qu'il est sur elles, mais elles arrivent à s'en débarrasser plus ou moins, et du coup, elles vivent avec. Mmh. Voilà. Et donc, préfèrent vivre avec le varroa que vivre avec des médicaments contre le varroa. Et à s'habituer à... Enfin, c'est comme se créer une unité. Enfin, on pourrait appliquer ce principe-là à nous. Il y a une autre chose, c'est qu'on ne les nourrit pas. Et du coup, en les nourrissant pas, c'est comme le traitement. C'est-à-dire qu'on, des fois, on participe à ce que... Enfin, on ne les aide pas à s'en sortir. Donc, elles meurent des fois si elles n'ont pas assez récolté. Mais disons que si on part, on pourrait comparer avec le loup et le fait que quelqu'un accepte que le loup... prennent quelques-unes de ces brebis, ben, on pourrait, nous on part de ce même principe-là, c'est que une mauvaise année, on ne peut pas aller contre une mauvaise année. On peut pas aller, enfin, si, comme cette année par exemple a été terrible, ben, on ne peut pas négocier sur le fait qu'il y ait plusieurs éléments, plusieurs facteurs climatiques ou de maladies ou autres qui font que si nous on en tire des apprentissages, elles en tirent aussi parce qu'elles ont acquis des connaissances, enfin, elles ont acquis des choses qui font que ça fait des millénaires qu'elles traversent des crises énormes et qu'elles continuent à exister. Et une autre chose aussi, une autre étape qui me semblait importante, c'est le fait que en ce moment, il y a des négociations entre des syndicats apicoles et l'État pour faire disparaître les pesticides et tout ça. Et notamment les néonicotinoïdes là, qui sont présents dans les champs de betteraves. Et c'est en partie les champs de betteraves qui nourrit l'industrie apicole. C'est un comble énorme. Voilà. Du coup, le refus de les nourrir, c'est aussi le refus de participer à ça. C'est-à-dire le refus de participer à une culture dont l'apiculture a besoin pour créer du sucre et pour les nourrir chaque année. Et participer aussi à ce que ne pas participer à ce que, peut-être que cette culture de la betterave à sucre fasse qu'il y a une disparition énorme des abeilles. Enfin, vous voyez, cette espèce de cercle vicieux, on tend plutôt vers un cercle vertueux que vicieux. Et donc ça, c'est quelque chose aussi. Et ça, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de les nourrir, c'est le fait qu'on prend peu de miel. Enfin, on prend que le miel qu'on dit excédent. Et on fait toujours en sorte qu'elles aient assez pour eux. Voilà. Mais du coup, ça, c'est quand même des arguments qui ont fait que cette personne a mangé du gâteau. Non, mais quand, c'est quand même dit qu'il y avait un truc de l'ordre de qu'on n'est pas
des exploitants d'abeilles.
Oui, après moi j'en sais rien en fait. Peut-être que j'en suis, mais en tout cas j'ai l'impression que parce que je savais pas que ces techniques-là qu'on m'a apprises existaient avant, mais cette personne tu sais, qui a mangé le gâteau m'a dit non, dans ce cas ça me va, enfin ça correspond. Et ça m'a fait drôle du coup parce que je me suis dit. Est-ce que du coup il y a des formes d'apiculture, donc ça veut dire que les d'autres formes d'apiculture il n'y a pas de négociation, puisqu'il n'y a pas de compromis entre l'abeille et l'humain qui travaille avec elle. Enfin, je me suis demandé à quel endroit... Enfin, pour moi, tout ce dont je parle là, c'est de la négociation, mais positive, dans le sens où c'est... Enfin, c'est nos observations qui produisent un... Enfin, c'est pas une... Il y a un rapport de force, puisque... Parce que, par exemple, on travaille avec une abeille qui est extrêmement agressive. Enfin, je sais pas, je veux dire, c'est, malgré tout mon discours, là, même si on le réalise en acte, ben, on se fait quand même piquer quand on ouvre une ruche pour prendre le miel. Même si on intervient très peu, qu'on essaie de faire de l'observation depuis l'extérieur. Enfin, je veux dire, il y a quand même... Je dis pas qu'il n'y a pas de rapport de force, mais il y a quand même un truc... Qui, du coup, même si c'est qu'une personne végane et qu'elle ne représente pas tous les végans du monde, mais je me suis dit, ah oui, ça veut dire qu'il y a quand même un endroit où il y a un dialogue avec l'abeille, sans mots, où, je sais pas, il y a une sorte de réciprocité, en tout cas, qui m'intéresse, enfin, qui m'a donné envie de faire ce... Et juste après, ça, c'est un autre détail qui me fait sortir des arguments qui ont convaincu la personne végane, c'est que quand on a des ruches... c'est le seul métier agricole où on n'a pas besoin d'avoir d'argent pour démarrer, enfin pas besoin de faire des emplois, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir des terres. Du coup, on n'a pas besoin de passer par la mafia qu'elle a à s'affaire. Voilà, mais on peut tout. En fait, on a besoin que de poser sur des propriétés qui ne sont pas à nous. Enfin, voilà, puisque les abeilles, elles ne sont pas de clôture aussi. Et du coup, en fait, on a remarqué qu'il y a beaucoup de coupes rases ici, qui consistent à couper une forêt. D'un seul coup. En fait, on s'est rendu compte que le seul endroit, sur toutes les coupes rases, sur les ruchers qu'on avait, qui sont souvent genre des zones de 2-3 hectares, les grumiers, enfin les personnes qui coupent, ne peuvent pas couper tous les arbres qui sont autour des ruches, parce qu'ils seront piqués à un kilomètre. Et du coup, je me disais, par rapport à ce truc de négociation, où j'ai l'impression que on offre un toit à l'abeille, mais on la maintient, on lui laisse faire ce qu'elle veut, parce qu'elle construise elle-même. On se disait, par rapport à ce dernier exemple des abeilles qui ne supportent pas le bruit des grumiers, c'est que pour finir l'espèce de cercle virtueux de « je te donne quelque chose, tu me le rends », enfin de compromis qui des fois se font à travers des piqûres aussi, mais, parce qu'on voit bien que des fois on se fait pas piquer, on se dit on va aller dans le sens de cette technique, ça on a l'impression de pas gêner à continuer là-dedans, mais c'est que les abeilles prennent le terroir d'un sol, enfin d'un territoire, enfin le sucre sucré et protéiné et minéral des fleurs, elles le transforment en miel. Ce qu'elles rendent, enfin le compromis avec les fleurs, c'est de polliniser, de maintenir la population florale. Nous, on maintient la population d'abeilles noires parce qu'on favorise son développement, même si on la maintient sauvage. On la développe pour qu'elle ne disparaisse pas ici. Et en échange, on a du miel. Et je me dis, il manque quelque chose entre nous et le sol. Entre nous et la forêt. Enfin, à rendre. Et du coup, c'est pour ça que je me disais que là, c'est assez récent, mais que ce que je voulais faire, c'était qu'il y ait un pot qui soit... Mais c'est un pied de nez, mais qu'il y ait un pot qui soit issu de couperas, qui soit un miel de couperas. Donc je mette des ruches sur des couperas. Parce qu'après une couperase, il y a tout un ensemble de fleurs qui sont extrêmement mellifères, qui viennent sur 5 ans. C'est framboisier, genêt, sureau, tout ça, rose. Et qu'en fait, ce pot, il serve à... J'ai peut-être sorti du sujet, mais c'est
non,
juste que...
Non, pas du tout.
Que ce pot... tout l'argent qui des ventes de ce pot serve à racheter des couperases. Et à les laisser devenir forêt.
Ouais.
Et du coup, qu'il y a un truc. Il me semble que c'est la seule chose qui manque pour finir cette. Pour clore la boucle de deal. De dealer où on prend des choses et on les rend. Voilà. Parce que je sentais quand même qu'il y avait un truc où. Enfin, je sentais des fois que. Ouais. Je me demandais à quel point. Des fois on se sent. C'est pour ça que je parlais d'amour et de domination, mais peut-être que vous n'avez pas compris bien.
I always
Massive Attack sur Radio Vassivière, et juste avant on entendait Julien, apiculteur, qui parlait de la négociation au sein de son activité. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Vassivière et nous sommes en compagnie de Jean Gilbert et de Pomme Boucher pour parler du groupe de recherche sur les technologies intellectuelles ouvertes, Tigrou. Alors donc là, on entendait des exemples de négociations au sein d'une activité. Vous étiez plusieurs à parler de comment vous négociez dans différents domaines. Comment ça s'est passé un peu ces échanges autour de la négociation?
Ce qui me semble intéressant en fait aussi dans ce qui se passe, et c'est peut-être là où on peut inviter les gens à nous rejoindre, c'est que c'est aussi des moments d'échange de pratiques et de stratégies, qu'elles soient plutôt individuelles en fait. Là on entendait aussi dans l'exemple qu'on a entendu avec Julien, j'avais aussi fait une petite intervention juste avant lui, et en fait on se rendait compte que les stratégies que lui avait pouvaient être transposables à certains endroits dans des situations différentes, et donc on est en fait dans une forme de réflexion collective, mais de nos prismes individuels, et de se dire toi ta manière de voir les choses peut m'amener à changer mon point de vue sur la situation que je vis et à trouver éventuellement une stratégie pour mieux négocier, ou en tout cas, voilà. Donc il ne s'agit pas forcément de définir ensemble une vision globale de ce que serait négocier avec une définition sur laquelle on se mettrait tous d'accord, mais plutôt, voilà, c'est des techniques, des stratégies individuelles qui viennent se rencontrer et ça fait une communauté d'échanges, de pratiques autour de la négociation.
Comment ça s'est passé, les premiers échanges à propos de la négociation, la première rencontre, comment ça s'est passé?
Alors en fait, on a proposé tout simplement aux gens un protocole, un dispositif de rencontre et d'échange assez simple, où on demande aux gens de prendre la parole pendant 15 minutes maximum pour décrire de manière aussi précise que possible un processus de négociation ou une habitude de négociation qu'ils ont dans tel ou tel domaine de leur existence, quoi. Donc l'idée, c'est que chaque personne qui participe aux journées est invitée à prendre la parole si elle le souhaite. Évidemment, personne n'est forcé non plus. Donc le temps maximum, c'est 15 minutes pour que ça puisse tourner, quoi. Et ensuite, il y a en gros 15 minutes pour les discussions, tous les échos que ça peut susciter chez les autres ou les questions. Et tout ça se passe autour d'une grande table, en fait. La table des négociations. Et donc voilà, du coup on prend aussi des notes au fur et à mesure. Enfin bon, il y a un processus de capture d'une certaine manière de ces témoignages ou de ces récits ou de ces échanges.
Et donc pourquoi avoir choisi ce que Julien proposait, pourquoi ça vous a semblé important de donner à écouter cet exemple-là?
Ce qui était intéressant dans cette idée, c'est que on pouvait redécrire sous l'angle de la négociation des tas de relations, de travail ou familial ou vital, en fait, simplement, qu'on a, mais qu'on ne regarde pas forcément de cette manière-là. Et pour répondre, en fait, ça répond un peu à la question de tout à l'heure, c'est que négocier permettait de reparler d'un tas de choses, en fait, qu'on a en commun, mais ou qui sont très personnelles, mais c'est une manière d'avoir un angle pour raconter un certain nombre d'expériences. En fait, moi, si Julien, s'il n'y avait pas eu cette occasion-là, moi, je ne suis pas vegan, et donc Julien ne m'aurait jamais raconté tout ça. Donc là, pour le coup, maintenant, j'ai appris des choses.
Pour poursuivre un petit peu, ce qui me semble aussi intéressant, là, dans l'exemple de Julien, c'est que ce qui nous intéresse aussi au sein du groupe, c'est d'avoir ces temps réels de description de nos pratiques, avec effectivement un angle de vue qui nous permet de regarder et de comprendre, d'analyser et de partager ensemble l'analyse de ce qu'on vit ou de ce qu'on fait à travers nos activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Moi, je trouve toujours assez, assez beau, quoi, ces moments de rencontre qui durent une journée, puisqu'en fait ça démarre le matin, on finit le soir, et où on prend vraiment le temps de s'écouter les uns les autres, et chacun prend le temps aussi de décrire à travers ce biais-là, de la négociation pour ce cycle-là. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des personnes qui suivent en visioconférence. Mmh. Donc c'est effectivement un dispositif léger, mais quand même pas que, parce que ben, on le vit de plus en plus aujourd'hui avec ces questions d'éloignement dû à la crise sanitaire, etc. Mais en tout cas, ça, c'est aussi intéressant de voir et de s'approprier en fait cet outil-là, de voir qu'est-ce que ça produit. Et donc il y a tout un temps à la suite aussi de ces échanges. On prend généralement quand même une demi-heure, voire une heure, pour analyser, comprendre, partager ce que ça nous a fait d'être en visioconférence, qu'est-ce que ça produit. Donc il y a aussi cette attention à voir quel dispositif on met en place. Il est réadapté, réfléchi quand même à chaque fois, dans l'idée de faciliter en fait vraiment une forme de fluidité des échanges et d'attention en fait à la description des uns et des autres.
Et c'est aussi, du coup, d'une certaine manière un peu pratique pour pouvoir enregistrer certains échanges, j'imagine. Et justement, comme tu disais, Jean, il y a toute cette, ce côté un peu prise de notes, ce côté un peu collectage. Je ne sais pas totalement comment le nommer, mais tout est conservé, j'imagine, ou quasiment tout. Et comme ça, ça a l'air d'être une espèce de monstre effrayant parce que beaucoup, beaucoup d'heures de matière, de contenu, d'informations, d'échanges avec des précisions qui doivent se loger à des endroits très différents. Alors, c'est quoi l'idée de cette matière, de comment elle va être traitée, où est-ce qu'elle va atterrir ? Parce que je sais que c'est aussi très important comment tout ça est documenté.
Pour te répondre au premier, on va dire, niveau, c'est vrai que c'est un côté monstre, tu vois, c'est... Mais pour ce qui me concerne, c'est lié en tout cas à un sentiment que... effectivement, maintenant, on écrit avec nos téléphones, quand on photographie, quand on enregistre, quand on... je sais pas quoi, quand on filme, voilà. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'en fait pas grand-chose, en fait, et qu'il y a une... des objets, des matériaux, enfin, qu'on ne sait pas forcément bien regarder ou lire. J'ai vraiment le sentiment que il y a des formes d'écriture qui peuvent s'inventer à partir de ces techniques-là, en fait, qui sont des techniques d'écriture. Ça, c'est un premier point pour te répondre. Et le deuxième point, c'est que on a pour projet de travailler un site, en fait, où effectivement tout cet enregistrement-là, tous ces enregistrements-là, ou pas tous d'ailleurs, seront redisposés, reproposés, réagencés, de manière à ce que ce qui aura été vécu par les gens qui auront participé aux rencontres de cet automne serve aussi à amorcer une continuation, un prolongement. Parce que le groupe est ouvert, mais il doit chercher aussi. Donc la recherche, elle démarre en un sens, quoi. Oui. Pour terminer, c'est vraiment intéressant comme question d'écriture. C'est-à-dire, déjà, on se dit, prendre des notes, c'est écrire. Échanger, enregistrer, on est quand même dans des formes d'écriture. Et puis après, ça va être repassé par un site, donc on va devoir faire toute une série de choix. Et puis... ça va fonctionner aussi comme un prolongement possible d'échanges qui pourront mobiliser des formes d'écriture au sens classique, comme quand on écrit, mais on parle d'écriture radiophonique, on parle d'écriture photographique, on parle d'écriture...
Ce qui est, l'idée aussi à la fois du site est de rendre visible, de transmettre et d'être aussi le support d'une écriture collective. Du coup, c'est un peu aussi ce qui est à l'origine du projet, c'est de voir comment en fait une écriture collective à travers les médiums qu'on utilise effectivement aujourd'hui, tout en apportant une attention et essayer de comprendre ce qui se joue et qu'est-ce qui est possible, quelles ouvertures sont possibles. Et du coup, c'est un petit peu ça qui est en train de se fomenter au fil du temps, mais c'est vraiment très dans l'expérience, c'est-à-dire que ça se fait. On comprend plus ou moins, on fait des choix à partir de ce qui s'est passé la fois précédente. On se refait des visios entre nous pour essayer de dire, bah tiens, il y a ça, il y a ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui se construit petit à petit. Et du coup, effectivement, l'idée du site, c'est d'être le médium, en fait, de cette écriture collective à travers des enregistrements, des prises de notes, puisque il y a aussi sur les grandes tables des papiers qui sont disposés, et donc des prises de notes collectives et individuelles. Donc il y a effectivement tout un tas de... Il y a aussi Lauriane Lestac qui, elle, prend des notes...
Plutôt graphiques.
Plutôt graphiques, voilà. Qui, d'ailleurs, sur une tablette aussi. Donc jusque-là, elle le faisait plutôt sur du papier. Là, elle le fait sur une tablette qui peut être partagée, du coup, à l'écran avec les personnes qui sont en visioconférence. Donc c'est aussi voir voilà, tout ce que cette interaction-là, elle permet... Et voilà, donc c'est assez réjouissant, mais c'est en même temps quelque chose qui se construit au fil de l'eau.
C'est vraiment le côté exploratoire, en fait. Ce qui est intéressant, c'est d'explorer, de tenter des choses, de s'apercevoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais ça, c'est vraiment l'idée du groupe ouvert, c'est-à-dire que les gens qui viennent pour la première fois peuvent avoir un regard très pertinent et juste ce qui se passe. Et du coup, pour nous, un des enjeux, c'est d'arriver à proposer aux gens de pouvoir en fait adopter différents points de vue, en fait, un moment de participer directement, de se mettre un peu en recul, de renvoyer et qu'on soit pas voilà, que c'est vraiment recherche collective sur qu'est-ce qu'on est en train d'essayer d'élaborer comme outil commun.
Et donc il y a eu 3 rencontres. Il y en a une autre qui est prévue le samedi 18 décembre à Limoges. Alors qu'est-ce qui va se passer? On peut en parler un peu? Déjà, vous avez, j'imagine, peut-être un dispositif en vue.
Alors, c'est à l'IF, à Limoges. Donc, voilà, c'est un lieu où on fait souvent des rencontres. Il y avait une organisation plus ou moins thématique. En octobre, c'était sur les arts, enfin, plus orienté sur les arts. En novembre, c'était plus sur les rapports avec les vivants, on va dire. Et puis, en décembre, ce sera plus sur la question du travail, les négociations dans le champ du travail. Mais... c'est juste indicatif, en fait. Chaque jour, on prend ce que les gens apportent, en gros. Il y aura une intervention d'Albertine Simonet, une intervention de Sylvain Courtou, qui est un auteur de Limoges. Et puis, il y a aussi une rencontre qui s'est faite avec une autrice qui s'appelle Esther Salmona, qui a suivi, en fait, toutes nos conférences en visio et qui a participé depuis la visio, mais de manière extrêmement active, et que finalement, on a invité à venir. Et il y aura, c'est pas encore arrêté, mais peut-être quelqu'un qui a été vraiment chef d'entreprise pendant longtemps et qui a une grosse expérience des négociations vraiment typiques au monde de l'entreprise. Et puis la personne qui est à l'IF a une grosse expérience dans ce domaine-là professionnellement aussi. Et je pense que ça aura, comme ça va être la quatrième et la dernière de ce petit cycle de rencontres, je pense qu'on va travailler aussi sur la mise en place du site et puis le lien avec les prochaines rencontres qu'on fera au mois de mars.
Donc voilà, un peu une idée déjà de ce qui va se passer au mois de mars.
Alors le titre des rencontres du mois de mars, c'est écriture collective. Donc,
va falloir qu'on s'y mette, quoi.
Voilà. Et donc alors les rencontres du mois de mars, c'est plus organisé plus directement par PAN. Donc ça rentre plus dans les rencontres qu'on organise au printemps, enfin dans le cadre du printemps des poètes. Donc c'est, mais nos préoccupations du moment sont vraiment celles-là. Entre autres parce que là, ce qui caractérise les rencontres de cet automne, c'est que il s'agit de resituer des pratiques que tous les écrivains ou les auteurs ou les poètes ou les artistes, je sais pas, ou les ont en fait dans la manière dont ils montent leurs projets ou dont ils font leurs travaux. Donc il y a plein de pratiques de négociation quand on écrit, et de les confronter aux pratiques les plus ordinaires, quoi, celles de tout un chacun, quoi. Et en fait, c'est un peu une manière de créer des rencontres sous un modèle qui nous intéresse d'expérimenter. Et ça va un peu logiquement vers écriture collective, parce qu'on se rend compte du coup que l'écriture n'appartient plus uniquement aux auteurs ou aux autrices répertoriées comme telles, quoi. Donc il y aura un programme... qui va mobiliser à la fois des auteurs et des autrices qui peuvent être dans des collectifs d'écriture, mais qui vont aussi engager une réflexion sur les gens qui lisent, ou bien sur les gens qui diffusent, donc par exemple les processus d'édition, admettons, ou bien tous les processus de lecture collective.
Et du coup, l'idée À ce moment-là, ça va être aussi d'explorer des dispositifs différents, de continuer les collectes et de témoignages, ces rencontres-là. Donc on a, c'est pas encore fixé du tout, mais en tout cas l'idée c'est d'essayer d'explorer différents dispositifs ou de collectes, de relations et d'essayer effectivement plein de pratiques de lecture ou d'écriture ensemble, quoi.